France Inter. L'actrice franco-finnoise Nadia Terechkevich se destinait à une carrière de danseuse et changea de trajectoire à ses 18 ans en quittant le Canada pour Paris où l'attendait une cagne option théâtre. Suivent le cours Florent et les films Sauvages de Denis Berry, Persona non grata de Roche Dizem, Seules les bêtes de Dominique Moll ou L'île rouge de Robin Campillo. Tour à tour fantasme absolu dans Babysitter de Monia Chokri, actrice des années 30 dans Mon crime de François Ozon ou Femme à barbe dans Rosalie de Stéphanie Di Giusto, la lauréate du César du meilleur espoir féminin pour Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi est le personnage principal de Belladone de la réalisatrice franco-lituanienne Alante Kavaite en salle dès demain. Dans un futur proche, une loi impose aux personnes âgées de vivre en institution. Certaines ont choisi de rester libres en s'isolant sur une île, sous la surveillance bienveillante de la jeune Gaëlle, ancienne cuisinière qui leur prodigue attention, nourriture et soins divers. L'équilibre trouvé va être fragilisé par l'arrivée d'une jeune médecin et de son frère, tandem énigmatique accompagné d'une petite fille. Les décès des vieillards vont alors se multiplier sans que l'on ne sache pourquoi. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Nadia Terechkevich, à la polonaise, bien que vous parliez finnois.
Bonsoir Eva.
Parce que je vous ai demandé comment le prononcer, et comme moi je suis à moitié polonaise, vous m'aviez dit à la polonaise ça donne quoi, je vous ai dit Terechkevich.
Je préfère comme ça.
D'accord, alors je ferai un entre-deux, franco-polonais.
Génial, parfait.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Hier soir, j'étais à la générale de la soirée Sharon Eyal Matsek, le Pas de Paille. Et ces deux chorégraphes que j'aime énormément, très différents.
À l'Opéra ?
À l'Opéra de Paille, à l'Opéra Garnier.
Et vous avez fait beaucoup de danse dans votre vie, vous vous destinez à être danseuse ?
J'ai fait beaucoup de danse, mais là, il y a un plaisir fou d'y aller en tant que spectatrice, soutenir mes amis et puis le recevoir. Je suis repartie avec tellement d'images et de... Enfin, c'est une soirée qui apporte énormément à l'imaginaire. Et je sais pas, j'étais très mélancolique en rentrant. Et en même temps... inspirée, parce que voilà, j'aime énormément ces deux chorégraphes.
Et pourquoi vous étiez mélancolique ?
Parce que Matsek a fait donc une pièce qui s'appelle L'Appartement, et c'est une pièce qui parle à nos solitudes, j'ai l'impression. Il y a plein d'éléments d'objets du quotidien sur scène, notamment une porte toute seule. Enfin, les danseurs errent comme ça, et c'est une pièce que je crois que j'avais vue il y a longtemps, je l'avais oubliée, et là, ça m'a tout de suite connectée à une forme de mélancolie et de tristesse, et en même temps, c'est d'une poésie, d'une beauté. Ouais, j'étais très heureuse de voir cette pièce hier.
Vous vous apprêtiez à devenir professeur de lettres quand le réalisateur Denis Berry, dans un café, vous a dit que vous alliez être actrice.
C'est vrai que je voulais être professeur. Ouais. J'étais en prépa à Greg. Je ne sais pas si je l'aurais eu. Et puis je suis très heureuse et je remercie Denis de m'avoir permis de faire du cinéma.
Et sa femme, Anna Karina, aussi, vous ont encouragé tous les deux ?
Oui, je pense que c'est les premières personnes qui m'ont dit que je devais essayer, vraiment. J'avais un peu perdu espoir avec la danse pour un métier artistique. Et puis aussi, ils m'ont permis d'essayer. C'est un tout petit film, mais le fait de vraiment être sur un plateau et de me dire... Ah, j'ai envie d'essayer. C'était plus ça. Puis après, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils m'ont fait découvrir plein de films de La Nouvelle Vague.
Godard.
Ouais, j'ai eu une sorte d'apprentissage. Et puis après, ils m'ont soutenue pour mes choix, pour donner confiance. Donc, je suis très reconnaissante de cette rencontre.
Vous lui avez dédié votre César. Il est mort pendant le tournage des Amandiers. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a enseigné, qui vous accompagne toujours ?
Il m'avait dit de ne pas avoir peur de dire non aussi.
Très bon conseil.
Très bon conseil. Et de faire vraiment des choix de rôle et de... Enfin, vraiment avec mon cœur et de ne pas me sentir forcée de quoi que ce soit. Et voilà, j'essaye de suivre ce conseil.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Nadia Tereshkevitch, le film Belladone d'Alante Cavaïté est en salle demain. Il devait s'appeler à l'origine Submergé. Pourquoi ?
Parce que c'est un personnage qui est submergé par ses émotions. C'est un personnage qui n'arrive pas à vivre, en fait. C'est un personnage qui va apprendre, réapprendre à vivre parce qu'elle elle est tellement dans un déni de la mort. Elle a peur de la finitude des choses. Enfin, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et en même temps, l'arrivée de ces voyageurs la submerge parce que tout est bouleversé. Ils vont quelque part, bousculer tout ce qu'elle avait mis en place. Puis en même temps, l'île est submergée parce qu'on est en 2050, est submergée par les eaux. Il y a de l'eau partout. Et donc, il y a aussi quelque chose qui rappelle, je veux dire, le climat. Enfin, je veux dire, c'est à la fois un conte, et en même temps, il évoque des sujets, c'est très actuel, quoi, que ce soit la vieillesse et la fin de vie.
Ou l'autonomie et le survivalisme.
Exactement.
Est-ce que vous vous êtes documenté par rapport à ça ? Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur ce que vous feriez si on était contraint un jour d'être dans une telle situation ?
C'est une vraie question de... En fait, parce que même pendant le Covid, j'ai réfléchi à ça, cet équilibre fragile entre liberté et santé. Enfin, c'est une question. Jusqu'où... parce que là, le film, clairement, il regarde la fin de vie d'un côté solaire et dans l'idée de vivre intensément... C'est une vision épicurienne, en fait.
Mais ambiguë.
Oui, parce qu'elle propose, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, je l'ai interprété comme ça, de prendre position, d'y réfléchir. Elle questionne, en fait, ce... Et puis, il y a quelque chose de... Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose de très, très compliqué, parce que c'est des sujets très délicats. Que faire en fait face à la fin de vie aujourd'hui, notamment avec les EHPAD, avec la situation dans les EHPAD, enfin la place des personnes âgées dans notre société, elle questionne énormément. Donc oui, je trouvais que c'était un sujet très intéressant. En plus, il y a peu de films qui parlent de ça. C'est un vrai tabou en fait, la fin de vie. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant et de le questionner à travers un conte presque philosophique. Enfin, c'est l'idée qu'elle avait de créer cette île. En fait, quelque part, elle permet de faire un monde à part qui n'est pas connecté à notre vie actuelle.
Et donc les belladones, ce sont des baies aussi appelées la cerise du diable peut utiliser soit pour se suicider, mais je le déconseille puisque les souffrances sont atroces, je suis médecin. Et puis, j'ai appris en préparant l'émission que les ophtalmos utilisaient ça au 19e siècle pour dilater les pupilles lors des examens des yeux.
Mais je crois que j'ai lu ça aussi et que c'est pour ça qu'on l'appellerait aussi belladone. Parce que pour les...
Ah mais ça ne m'étonne pas de vous parce que j'ai vu que vous vous documentiez énormément sur les tournages.
j'aime bien comprendre et puis j'aimais bien l'idée que la belladone puisse aussi être un remède. Donc du coup, il y a une sorte d'ambivalence. Enfin, c'est intéressant même par rapport au film. Et puis le titre, du coup, a changé. Mais il y a submergé marqué sur le bateau. Donc il est encore là. Mais ça a changé parce que quelque part, belladone avait plus de sens.
Vous jouez Gaëlle, dont la mère est morte et à laquelle elle n'a pas pu dire au revoir. C'est la mère qui a permis à ces vieillards de rester sur cette île. Et Gaëlle fait, comme beaucoup de gens, ce que sa mère aurait voulu qu'elle fasse, mais selon elle. Quel est votre rapport aux morts ou à la mort ? Ou à vos morts ?
Moi, j'ai tendance... je suis croyante, donc j'ai tendance à penser que...
Vous avez fait des études de foi en Finlande, je crois.
Oui.
Vous êtes luthérienne.
Oui, luthérienne. Non, j'ai tendance à croire que les morts nous voient. Enfin, j'y pense pas plus que ça. Après, c'est vrai que j'ai peur parfois d'un coup de perdre mes proches. Mais ça, j'y pense. Je peux avoir des moments de panique en pensant à quelqu'un, en me disant voilà, de peur de perdre, ça c'est certain.
Et vous ?
Non, moi j'y pense pas pour moi. J'ai pas du tout envie d'ailleurs d'y penser.
Comme beaucoup d'entre nous.
Non, c'est ça, mais par contre, ouais, je pars du principe que j'ai envie de vivre intensément. J'ai pas envie de perdre du temps.
Alors parmi les gens âgés qu'on trouve sur cette île, il y en a un qui est interprété par Patrick Chesnay, qui est le maire, dont l'autorité peut être facilement contestée puisque vous êtes très peu nombreux. Il suggère à votre personnage de lire Aurélia de Gérard de Nerval. Et ça m'a amusée parce que vous vous destinez à être professeur de lettres. Je sais que vous lisez beaucoup et vous dites que vos souvenirs sont toujours mêlés à ceux de vos lectures. Vous avez lu Bel Ami en Autriche et vous le visualisez là-bas. Et vous avez lu Le cas de Dino Buzzati en Slovénie au bord d'un
mais
lac.
Mais où est-ce que vous avez lu ça?
J'adore. C'est dingue. À chaque fois, on me pose cette question. C'est toujours très flatteur. Mais j'ai aussi de très bonnes documentations.
Ah oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai beaucoup de souvenirs. C'est drôle, Le cas est Bel Ami, parce que c'est vrai, j'ai tellement lu, en fait, pendant mon adolescence.
Deux très bons livres.
Je suis d'accord, ceux-là, en tout cas. J'ai lu dans des endroits où je me rappelle très précisément. C'est comme quand on écoute une musique et on se rappelle où on était, enfin, où ça rappelle un moment. Et d'ailleurs, Aurélia, je l'ai beaucoup étudiée, donc c'était drôle qu'il était dans le film, et puis qu'elle voulait s'en inspirer avec cette idée de réalité, d'irréalité, enfin de jouer avec ça, non, avec l'irruption du fantastique, quoi. Mais c'est vrai que j'ai été... Autant, je suis pas très cinéphile, c'est venu avec le temps, c'est venu avec le cinéma, j'aime de plus en plus, et je m'y intéresse de plus en plus, mais c'est vrai que j'ai grandi avec la littérature et tout mon imaginaire s'est construit avec. Je pense principalement parce que j'avais pas la télé et que j'avais des étés entiers à rien faire, et donc j'ai commencé à lire comme ça.
Donc il y a les frères Karamazov qui ont compté pour vous, ça, c'était plutôt aux vacances de Noël ça?
Ouais, oh mon dieu. C'est drôle, mais ça me touche beaucoup. Oui, parce que mon père m'avait dit qu'il avait entendu, je me demande si c'était pas Albert Camus, enfin je sais plus, quelqu'un qui avait dit, je crois que c'est Albert Camus, qu'il avait fait lire les frères Karamazov à sa fille de 14 ans pour comprendre les questions fondamentales de l'existence, enfin voilà, questionner, réfléchir sur le bien et le mal. Et du coup, mon père m'avait dit, est-ce que toi tu serais capable? Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un challenge comme ça de le lire. Et je me souviens que c'était dur, c'était un effort, je ne comprenais quasiment rien. Mais bizarrement, cet effort m'a donné un vrai, vrai, vrai plaisir après, où je me suis dit, je l'ai lu, donc maintenant je peux lire ce que je veux. Et ça a ouvert comme ça. L'effort en fait, de la lecture m'a permis d'adorer lire, en fait. Enfin, j'ai aimé lire après les frères Karamazov.
Alors, en parlant d'enfance, puisque là, c'était pendant l'enfance, et pour revenir au film, dans Belladone, en dehors de vous, avant l'arrivée du trio mystérieux, il n'y a pas de jeunesse. Mmh. Et à un moment, il y a un enfant qui revient, et les personnes âgées, il semble que ça leur fasse du bien. Alors que moi, je me serais pourtant dit que ça devrait les plonger dans une nostalgie.
Bah non, je pense que, métaphoriquement, elle apporte un espoir, elle apporte... la petite fille, elle apporte la vie. Pour remettre la vie sur cette île et reconnecter ces personnes âgées et Gaël au mouvement, même les corps, à reprendre vie et à danser. Enfin, c'est vraiment clairement voilà, danser et reconnecter les uns aux autres. Voilà, donc je trouvais métaphoriquement ce bateau très intéressant avec ces trois personnages.
Tout à l'heure, on parlait d'ambiguïté, et c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que ces êtres sont privilégiés ou pas, puisqu'en fait, il y a une absence de société, enfin, il y a une mini-société, mais ils souffrent de ne pas faire partie de la société telle qu'on la connaît.
Oui, c'est vrai.
D'ailleurs, ils sont plutôt mélancoliques, la plupart d'entre eux,
oui,
sans révéler ce qu'il se passe.
Oui, y a une forme de tristesse, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'à s'empêcher de vivre, ils perdent leur dernier moment, en fait, et que est-ce qu'il ne faudrait pas mieux vivre intensément et pas...
Moins,
en fait,
longtemps.
Ouais, moins longtemps. Mourir dans la joie, il y a quelque chose de ça. Et je trouve que c'est ça qui m'avait beaucoup touchée à la lecture du scénario, c'est qu'on se pose nous-mêmes la question, qu'est-ce qu'on ferait? Elle est magnifique, celle-là.
Très beau.
C'est la couleur de tes yeux. T'es très belle.
Mmh. Oh. Je pourrais encore poser nue.
À part une pneumonie, je vois pas trop ce que ça pourrait t'apporter, mais...
Ah, ce que tu peux être rabat-joie, du plaisir, ma vieille. Ça m'apporterait du plaisir. Tant pis pour la pneumonie.
Ça, c'est l'un des grands thèmes du film qui est soulevé dans cet extrait de Belladone, Nadia Tereskevitch, puisque vous partagez la scène avec Alexandra Stewart, qui est une vieille dame très coquette. Et elle s'apprête, et puis vous avez peur qu'elle tombe malade, mais elle pense à prendre du plaisir. Et en fait, la question qu'on se pose aussi, parce que c'est un film qui charrie beaucoup de questions, c'est est-ce que tout ce qui fait du bien fait du mal ? Parce qu'on veut s'empêcher de s'abîmer, mais vivre, ben ça abîme.
Oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé, c'est marrant parce qu'il y avait comme une mise en abîme avec Alexandra Stewart, parce qu'elle est comme ça aussi dans la vie. Et c'était troublant parce qu'à un moment dans le film, elle regarde son propre portrait. Et c'est vrai qu'on n'était plus dans le film, elle le regardait vraiment. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien vieillir comme elle. Elle est pétillante, on voit pas du tout... Enfin, elle n'est pas du tout connectée à cette fin de vie. Elle est jeune. Elle a envie de faire plein de choses. Quand elle dit qu'elle a envie de faire la fête dans le film, elle le disait vraiment. J'ai adoré cette femme, cette rencontre. Je me dis, j'ai de la chance de faire du cinéma pour avoir des rencontres comme ça aussi.
Est-ce que vous arrivez plus facilement à vous occuper de vous ou des autres ?
C'est drôle. J'essaye de trouver un équilibre. Voilà. À trop s'occuper de soi, on oublie, on perd les choses essentielles, je pense que... Mais après, il faut aussi être bien avec soi pour pouvoir s'occuper des autres.
Vous êtes bien avec vous-même, mais...
J'essaye, ouais, je pense que... Ouais, je suis à la recherche d'un équilibre.
À un moment, le personnage incarné par Daphné Patakia, qui est votre opposée dans le film. Elle fume, elle boit, elle danse de façon lascive avec tout le monde et elle lit Vénus Erotica d'Anaïs Nin. Pensez-vous que la littérature puisse émoustiller ?
Ah oui, moi je me souviens en plus d'avoir lu des livres beaucoup trop jeunes et d'avoir vite fermé en me disant « Oh là là, je ne devrais pas lire ça ». Je suis complètement... Parce que la littérature... amène un imaginaire tout de suite. Pour moi, c'est des images presque plus fortes, parce qu'on doit les créer nous-mêmes. Donc,
Dedans, vous êtes une sorte de Don Quichotte gentil, intègre. Est-ce que c'est forcément ennuyeux, puisque c'est ce que certains personnages lui reprochent ?
Moi, j'avais des choses en commun avec Gaëlle. Je bois pas, je fume pas, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir une vie joyeuse, mais je danse par contre énormément. Et je trouve que ce personnage est complexe. C'est-à-dire que même moi, j'arrivais pas trop parfois à la comprendre. Et je trouve ça intéressant d'aborder un personnage où on comprend pas tout. Il y a quelque chose vraiment chez elle d'opaque. Et j'ai essayé de... Je pense qu'il faut aimer son personnage et la comprendre pour la jouer. Et en même temps, parfois, je la comprenais pas. Mais j'ai essayé d'aller au bout. Même si moi j'avais envie de lui dire il faut s'abandonner, et comme c'est son trajet de s'abandonner et de reprendre goût aux choses, elle a même perdu l'odeur, elle reconnaît même plus les odeurs. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'est complètement éloigné du plaisir, et donc je trouvais ce trajet assez intéressant.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Nadia Tereskevitch, vous avez remarqué que tous les rôles que vous avez eus aspirent à une forme d'indépendance et d'émancipation. C'est un hasard ?
Avec le recul, je m'en rends compte. Mais c'était pas forcément calculé, mais c'est toujours des rôles très intéressants parce que c'est des femmes à des époques différentes que j'ai eu la chance de jouer. Et c'est intéressant de voir des femmes... Même par exemple, dans L'île rouge de Robin Campillo, c'était une femme qui avait en elle un désir d'émancipation, qui était au bord, mais comme on était entre 69 et 70, c'était juste un début, une émancipation potentielle. Et c'était intéressant de jouer ça dans les années 30. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui s'émancipe les années 80, en 1990 ou aujourd'hui.
Et dans les années 30, c'est Mon Crime.
Oui.
Et chez Robin Campillo, vous êtes femme de militaire.
Oui, à la transition des années 69-70.
Vous êtes une esclave scandinave aussi au XVIe siècle, dans La Dernière Reine.
C'est vrai. Où je parle finnois et arabe.
Oui, bah okay. Oui. Évidemment, j'ai enquêté. Alors, il paraît que le plus dur pour vous, c'est de ne pas vous déconcentrer sur un plateau et vous avez la sagesse de laisser votre téléphone à la maison.
Oui, parce que je trouve que le téléphone, ça nous ramène concrètement à notre vie de tous les jours. Et puis, il y a quelque chose qui... Je trouve que ça... En fait, c'est très fragile, un imaginaire sur un plateau. Je trouve qu'on est très vite déconcentré d'une atmosphère qu'on crée. C'est très fragile et j'aime bien aussi me dire que sur un plateau, je peux errer, je peux rêver. Après, j'arrive même pas à lire. Hein. J'aime bien juste être là et ça nourrit mon intériorité et je suis pas connectée à nos réseaux.
Et vous rédigez des carnets en finnois.
C'est vrai que j'ai plein de petits carnets où je colle aussi des petits souvenirs et puis j'aime bien les ressortir de temps en temps, même où je raconte des anecdotes. Voilà, j'écris pas du tout dans la vie, mais ça, c'est mon seul...
Vous faites en finnois pour qu'on puisse pas les comprendre.
Exactement, c'est ça. C'est ça. Bah, quand il y a quelqu'un, quand il y a un acteur qui passe au-dessus et qui regarde, au moins je sais que je suis tranquille.
Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12.
Et tous pris là.
Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre.
Eh bien,
c'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
L'important, c'est le travail, c'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
Mon rêve de coucher avec toi. Moi aussi, c'est mon rêve.
Je n'ai pas peur, je ne songe pas à avoir peur.
Tu sais, je suis fou. Faut que tu le saches.
Tout le monde est fou.
Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice. Et là, vous brûlez vos vies.
C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait.
Exactement. C'est ça. Exactement.
Hein, un jour, il va plus se retenir. Un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre.
C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien.
La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui deux fois.
Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter.
On entend la bande-annonce des Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi sur ces années et dans le théâtre du même nom auprès de Patrice Chéreau. Vous jouez le rôle principal, Nadia Tereshkiewicz. Là, j'en ai fait un peu trop. Nadia Tereshkiewicz, vous jouez le rôle principal de ce film. Non, mais vous dites que c'est elle, Valéria Bruni-Tedeschi, qui a changé votre vie et votre rapport au jeu. Elle est votre Patrice Chéreau.
Bah oui, en fait, elle a réussi à nous transmettre ce qu'elle a reçu de Patrice Chéreau, mais à sa manière, avec son rapport au travail, au jeu et ses émotions à elle qui, moi, me bouleversent. Et c'est vrai qu'elle a trouvé un moyen de me connecter à des émotions que je n'avais jamais même vécues. Enfin, c'est des trajets émotionnels. Et puis un rapport, elle a un rapport d'ailleurs à la danse et à la littérature, qu'on n'a pas en commun exactement, mais en tout cas, je m'identifie beaucoup à ce qui la bouleverse elle. Et c'est vrai qu'on a eu un vrai dialogue pendant la préparation de ce film. C'était plus de 4 mois. Donc en fait, on a tellement de chance quand il n'y a plus de préparation normale. En fait, on travaillait plein de textes, que ce soit des extraits de films. De pièces. Je me souviens, il y avait Panique à Needle Park, enfin, Raging Bull. Enfin, on travaillait plein de films, de pièces de théâtre de Tchekhov. Et du coup, ça a été pour moi un vrai moment où déjà j'ai compris que j'avais un désir profond de jouer, qu'il était encore plus fort et que y avait une forme de nécessité à jouer qu'il fallait trouver, qu'il fallait toujours avoir en soi. Et je la remercie pour ça, parce que je garde toujours un peu de Valéria avec moi quand je pense à un rôle, quand je vois un rôle, comment le travailler.
Qu'est-ce qu'elle entendait quand elle vous disait « le ridicule est merveilleux » ?
Bah, c'est vrai qu'elle elle a changé les curseurs. Plus je faisais quelque chose de ridicule, où en gros on s'abandonne et qu'on ne se regarde pas, plus il y avait des accidents, plus on... C'est pas de l'improvisation, c'est accepter le présent, ce qui se passe dans le présent, et donc créer des situations à partir de scènes qu'on avait écrites, évidemment. Mais plus on y mettait de la vie, plus ça la rendait joyeuse. Et comme sur un plateau, on veut évidemment que le metteur en scène soit heureux, en fait, on a créé ça, où en fait, on... Dès qu'on était dans un abandon total et qu'on se disait « là, je suis ridicule », ça nous rendait heureux. Enfin, c'est étrange, ça, que je me disais « c'est génial, là, j'ai ça ». Je sais qu'elle nous demandait d'aller toujours plus loin, mais dans la fiction, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui atteignait nos vies, mais ça dépassait quelque chose que je ne connaissais pas. Et enfin, j'ai pris un vrai plaisir, et ce n'était pas facile parfois aussi, émotionnellement, mais au final... ça m'a énormément apporté.
En parlant d'abandon, parfois, donc là, c'est pas du finnois, c'est un autre code secret, c'est votre mère qui vous dit de penser aux 80% et parfois, elle vous envoie juste un SMS avec marqué 80. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
C'est drôle.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, c'est vrai. Bah, c'est que j'ai tendance à être très bonne élève et à beaucoup travailler et je veux être complètement préparée. Et en fait, j'ai compris en vieillissant que... Il faut toujours avoir un peu d'abandon, c'est-à-dire 20% de c'est pas grave, je m'en fous, en fait.
Et vous y arrivez ?
Bah, c'est dur, mais j'essaye. En tout cas, ça permet de relativiser un peu, et 80% de travail acharné et 20% de lâcher prise.
Je vais essayer de suivre ce conseil aussi.
Sharaf gibir liya net kademlek besme baba aruch muharer el zayer kamel mdao akt wilaya. وتكفو به سلطانهم
عقد ولاية أنا ما مديتش
ما هاهو شتم منك هاتش انت شريفة هاهو يطلب منك تقبلي هاد الهدية أغبون صداقة.
Nadia Terechkevitch, c'est vous qu'on entend dans La Dernière Reine, réalisée par Adila Bendimerad et Damien Ounouri. Et vous avez travaillé l'arabe avec un coach pour l'occasion. C'est très impressionnant.
C'était passionnant. Je me serais jamais dit que j'allais apprendre, voilà, après, évidemment, j'aurais aimé approfondir, mais c'est vrai que j'avais essayé de comprendre un peu la grammaire, parce qu'on peut apprendre phonétiquement, mais déjà, c'est frustrant, parce que j'adore apprendre les langues, et les langues racontent tellement sur la culture, sur un pays, et en même temps, aussi, pour comprendre juste qu'est-ce qu'on dit, parce que même si on apprend toute la phrase, enfin, comment on joue ces phrases-là, puis ça raconte énormément. Je veux dire, y a, dans les différentes langues, c'est passionnant de voir où sont les intonations, où est le verbe. Et donc, voilà, j'avais des cours, et puis j'ai eu la chance avec ce film d'aller en Algérie. Puis j'ai beaucoup passé de temps là-bas parce que je pouvais pas faire d'aller-retour, j'avais un petit rôle, mais du coup je restais dans le pays et j'ai adoré, en fait. C'est génial, le cinéma, pour ça. Bon, après, on avait été confinés, donc je suis allée quand même on a recommencé deux fois le film, donc j'ai passé beaucoup de temps, en fait, en Algérie. Et non, c'était assez génial comme moment.
Vous êtes polyglotte de par vos origines, mais aussi grâce aux zones géographiques où vous avez grandi. Alors parlons d'abord de la langue paternelle qui n'est pas celle avec laquelle vous êtes familière. Mmh. Voici donc votre voix doublant cette langue en français.
Yagna Dominikova, ravissante et talentueuse. On ferait peut-être bien de la marier à un riche veuf.
Je suis très heureuse là où je suis.
Prends ça, je l'ai acheté pour toi.
Non, je peux pas accepter.
Prends-le, Yagna.
C'est lui le fermier le plus riche du village, non ? Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre, c'est évident !
Tu vas épouser ce vieux ?
Tu crois que j'ai mon mot à dire, peut-être ?
Nadia Terechkevitch, vous êtes le doublage de la voix française. Vous êtes la voix française de l'héroïne du film La jeune fille et les paysans, sorti l'année dernière, un film d'animation polonais adapté du roman Les paysans du prix Nobel de littérature Władysław Reymont. Et là, je le dis, d'ailleurs, c'est même Władysław, puisque c'est un W final, et le L barré se prononce « ouais » en polonais. Je ne veux rien entendre comme commentaire. Votre mère est finlandaise, votre père est polonais. Et il vous a beaucoup parlé de ce roman.
Oui, alors il a grandi en France, il est d'origine polonaise, mais c'est que ce roman, c'est un roman qui fait partie de la culture polonaise qu'on apprend quand on fait des études de lettres. Moi, je le connaissais, je ne l'avais pas lu, mais La jeune fille et les paysans, c'est un extrait de ce roman, mais c'est un roman de 1000 pages. Enfin, il y a plein d'histoires. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, je crois que c'est un des films qui m'a le plus bouleversée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été un coup de foudre. Il m'a touchée en plein cœur. C'est un film magnifique, fait avec, il a été tourné réellement, puis après peint par-dessus par une centaine de peintres qui ont tout repeint. Et il y a quelque chose d'artisanal aussi dans cette démarche. Et j'étais tellement contente de me dire que je participe, je reconnecte un petit peu avec une culture que je connais peu, avec laquelle je ne me sens pas du tout familière. Mais
En revanche, la culture finlandaise vous est très familière. Vous avez même vécu là-bas. Vous parlez couramment finnois.
Oui, je parle couramment finnois.
C'est votre langue de cœur. C'est celle dans laquelle vous priez, notamment dans Rosalie.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. On m'avait demandé de prier et j'avais demandé de le faire en finnois et on avait redoublé en français après. C'est ma langue. En fait, peut-être parce que c'est ma langue maternelle, que c'est ma langue émotionnelle.
Ça ressemble à l'estonien.
Oui, c'est vrai.
Et à aucune autre langue, enfin, on parle du groupe finno-ougrien, donc la Hongrie.
Mais vous êtes renseignée.
Oui, parce que j'adore les langues étrangères. Je sais dire quelques mots en hongrois, mais pas du tout en finnois. Vous pouvez nous dire quelque chose?
Olen iloinen olla täällä. Kiitos paljon.
C'est beau, qu'est-ce que vous avez dit?
Je suis très heureuse d'être ici, merci.
Oh, c'est magnifique, j'ai l'impression d'animer le festival de Cannes, mais Helsinki. Le festival de Helsinki. J'ai lu que votre grand-père, depuis Helsinki, qui était médecin et poète, envoyait chaque mois des piles de DVD, de livres et de longues lettres. Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander pour découvrir justement cette culture finlandaise que si peu de gens connaissent? Oui.
Mais je pense tout de suite au Moomin.
Ah oui!
C'est des petits personnages qui sont créés par Tove Jansson. Il y a d'ailleurs un film avec Alma Pöysti sur Tove, qui a écrit plein d'autres choses, évidemment, qui est une de mes grandes icônes. Et en fait, les Moomins, il y a des milliers de petites histoires, et c'est presque comme si, c'est par les Moomins que déjà j'ai appris le finnois, mais aussi que j'ai appris les premières grandes valeurs de la vie. Enfin, ils abordent tous les sujets, c'est-à-dire de l'amour à la mort, à comment aborder la vie. Et donc, c'est plus que juste des dessins et des petits livres, mais c'est vraiment fondateur en Finlande. Et donc, je recevais notamment des milliers de cassettes, parce qu'ils ont été faits aussi en dessin animé, disons. Et quand je suis allée au Japon, il y avait des gens qui avaient des t-shirts Moomin. Et j'avais dit, ah, mais c'est finlandais. Et puis ils m'avaient dit, non, c'est japonais. Et donc on avait une sorte de. Et en fait, parce que les dessins animés ont été faits au Japon.
Ouais, mais ils n'ont pas le monopole du mignon.
Я тебя люблю.
Хайста витту.
Хайста витту. Voyage,
voyage. C'est en russe et en finnois et c'est l'un de vos films préférés, Nadia Terechkevitch. Qu'est-ce qu'on entend?
On entend la bande-annonce de Compartiment 6 de Juho Kuosmanen. Oui, qui est un film que j'ai adoré, que j'ai vu. C'est le premier film que j'ai vu après le confinement. Et il a une force qui m'a fait quitter Paris.
Ah oui?
Bah parce que on est
pendant
embarqué pendant le film. Oui oui oui, on
vous
est
avez
embarqué.
Des projets avec ce réalisateur?
Oui, mais je peux pas encore en parler.
D'accord, non.
Mais c'est vrai que j'ai été tellement heureuse, il a vu Les Amandiers et donc on est maintenant en contact sur potentiellement un projet. It's been 7 hours and 15 days since you took
C'est votre choix musical, Nadia Tereshkevitch, Sinead O'Connor.
Nothing compares to you. Mais en fait, quand on m'a proposé quelle chanson, enfin, on m'a demandé quelle chanson j'avais envie de faire écouter, j'étais en train d'écouter cette chanson. Et je sais pas, elle me bouleverse. J'adore cette chanteuse. Et quand elle est décédée l'année dernière, et ça m'a vraiment fait quelque chose. Je crois qu'elle fait partie de ces chanteuses qu'on n'oublie pas. Et ces chansons, elles sont. Je sais pas, cette chanson, elle est magnifique.
Tout à l'heure, on parlait de langues étrangères. Vous vous appelez Nadia en hommage à l'héroïne d'un film russe, Soleil Trompeur. Mmh. Et vous avez passé vos 4 premières années à Versailles. Ensuite, vous avez vécu à Cannes. Et vous dites que vous vous sentez presque plus italienne que polonaise, puisque vous parlez l'italien, c'était la langue que vous entendiez là-bas. Vous étiez même dans une école de danse italienne.
Oh, vous êtes renseignée, c'est dingue.
Ouais, c'est... deux personnes sont renseignées comme ça, les psychopathes et les détectives privés. Non, il est très
non,
bon
non,
journaliste,
mais ça me
évidemment.
Beaucoup. Bah, oui, j'étais dans une école franco-italienne pendant 14 ans.
Ah oui.
Donc je parlais énormément italien. Puis en fait, c'est une langue que j'aime. Je la trouve belle. Et puis, la littérature italienne, les chansons italiennes. Et donc, je l'ai choisie en deuxième langue, aussi en prépa. Et puis là, j'ai eu la chance de faire un film en Italie, tout en italien. Et donc, j'ai passé presque un an en Italie. Pardon ?
Un western ?
Oui, c'est ça. Un film qui va sortir cette année. Et grâce à ce film, j'ai pu passer presque un an en Italie. Donc bon, là, je le parle mieux que l'anglais, ça c'est sûr.
Alors avant, vous aviez des journées... vous partiez à 6h30 le matin, vous reveniez à 22h chez vous pour pratiquer la danse. Et à 18 ans, après plusieurs échecs pour des concours internationaux, même si vous avez été prise au Canada, vous vous êtes dit, c'est fini, la vie est terminée.
Oui, c'est vrai. Bah parce qu'en fait, avec la danse, on a un rapport au temps qui est vraiment très étrange. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. C'est là que je me souviens que j'étais allée dans un stage à Boston, au Boston Ballet, et j'avais honte de dire que j'avais 15 ans, tellement je me sentais vieille. C'est quand même très bizarre. Il y a un rapport au temps, oui. Un rapport aussi au corps qui est compliqué. C'est-à-dire que j'avais peur de devenir femme. Mais ça, c'est mon rapport à moi avec la danse. Et c'est vrai qu'à 18 ans, quand je me suis rendu compte que, en fait, concrètement, j'allais pas y arriver, en tout cas, pas à ce que j'aspirais, enfin, voilà, et que j'avais envie de faire des études aussi. Mais c'est marrant de voir que c'est avec le cinéma, en fait, que j'ai trouvé une liberté et un vrai plaisir de, en fait, de reprendre, enfin, de me dire, en fait, je suis jeune, en fait, j'ai le temps.
Il y a même quelque chose de très intéressant que vous dites dans une interview, c'est que quand vous avez joué une femme à barbe dans Rosalie de Stéphanie Di Giusto, au départ, vous aviez honte de votre apparence, puis peu à peu, vous l'avez acceptée, ensuite, vous en avez été fière et vous l'avez même oubliée, cette barbe.
Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs films où j'ai un peu grandi avec le personnage, et c'est vrai que j'étais troublée parce que je me disais que je n'allais pas penser au regard des autres et que j'allais être très bien. Et bizarrement, au début, j'ai été submergée, pour le coup, par la honte. Une sensation très étrange avec mon corps. Et peu à peu, en fait, et c'était même pas lié forcément au regard des autres parce que tout le monde était bienveillant, mais peu à peu, on s'y est habitué. Et je trouve que c'était ça qui m'avait, en fait, frappée au départ dans ce scénario, c'est que pourquoi cette femme, elle pourrait pas être désirable, pourquoi elle n'est pas féminine, pourquoi elle n'est pas belle. Elle serait pas belle. Et en fait, j'espère que le film a, en tout cas, tendait à la rendre belle et à ce qu'on l'oublie, en fait, cette barbe. Et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils y pensaient même plus. Et donc, je me dis, je pense quand même que le cinéma a ce pouvoir-là de créer, en tout cas, des images et normaliser. Et idéalement, si on peut arriver à avoir des films où il y a plein de femmes différentes, plein de aussi de différences, parce que c'est comme ça, c'est pourquoi juge-t-on les gens différents et pourquoi on a une idée très précise de ce qu'est la beauté.
J'espère qu'on va être beaucoup à vous entendre. Merci beaucoup Nadia Tereshkevich.
Merci Eva. Merci.
Je rappelle que le film Belladone d'Alante Cavaite sort en salle demain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Paola Collin.